Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 25 Shahrivar 1400 du calendrier iranien, 16 septembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le président Raïsi s'est rendu au Tadjikistan pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'adhésion à part entière de l'Iran est à l'ordre du jour. Le président iranien est parti pour Dushanbe, capitale du Tadjikistan, afin de participer au sommet de l'ECS. Le premier convoi de camions-citernes chargés de carburant iranien arrive au Liban. Et Téhéran dénonce l'approche non constructive et irréfléchie de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Ibrahim Raïsi s'est rendu ce matin à Dushanbe, capitale du Tadjikistan, pour assister au sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, son premier déplacement depuis son arrivée au pouvoir. Lors d'une conférence de presse avant de son premier voyage à l'étranger en tant que président, Ibrahim Raïsi a déclaré que la priorité de l'Iran est d'établir des relations avec les pays de la région, en particulier les pays voisins. L'Iran a un statut d'observateur auprès de l'organisation eurasienne et la question de son adhésion à part entière figure en bonne place à l'ordre du jour de la réunion de cette année. Le sommet de deux jours de l'ECS se terminera vendredi. Le commentaire politique d'aujourd'hui, qui vous sera présenté à l'issue du journal, a été consacré à ce sujet. Le premier convoi de camions-citernes chargés de carburant iranien afin de remédier aux graves pénuries au Liban est arrivé jeudi matin dans la région libanaise du Hermel. Au total, 80 camions-citernes sont arrivés jeudi au Liban. Ils déchargeront leur cargaison à Baalbek dans les réservoirs des stations-service Amana, l'objet depuis février 2020 des sanctions américaines. Ces véhicules viennent de Syrie où la cargaison d'un premier navire iranien avait été déchargée mardi dans le port syrien de Banias. Le mouvement de résistance libanais, le Hezbollah, fera don d'une partie du carburant aux hôpitaux publics et institutions similaires. Ensuite, une entreprise privée sera chargée de vendre le carburant à des organisations privées et à des organismes producteurs d'électricité. Le Liban est confronté à des pénuries de carburant que le Hezbollah attribue aux sanctions américaines. La décision de faire transiter le fuel iranien à travers la Syrie semble être proposée par le Hezbollah pour éviter au Liban des sanctions américaines. L'ambassadeur d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne a dénoncé ce qu'il appelle l'approche non constructive et irréfléchie de l'Agence internationale de l'énergie atomique envers le programme nucléaire iranien. Kazem Gharibabadi a déclaré que la remise en question de l'engagement de l'Iran envers le traité de non-prolifération nucléaire pourrait se transformer en un point de friction dans l'engagement futur avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a noté que l'Iran a poursuivi son interaction pratique et constructive avec l'Agence. Il a ajouté que l'Iran, en guise de geste de bonne volonté, a tenté de répondre à des questions sur certains problèmes insignifiants déjà soulevés par l'Agence. Le représentant iranien a noté qu'il n'y avait aucun problème lié aux garanties concernant les travaux nucléaires en cours en Iran, ce qui, a-t-il ajouté, a été confirmé par le rapport du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a rejeté l'approche de l'Agence comme étant incompatible avec sa responsabilité professionnelle. La représentante adjointe de l'Iran aux Nations Unies a souligné la levée immédiate et complète des sanctions contre la Syrie, affirmant que le pillage du pétrole et des richesses du pays doit cesser. Madame Zahra Ershadi a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que les sanctions unilatérales qui ont un rôle dévastateur dans l'aggravation de la situation humanitaire doivent être levées immédiatement et complètement. Elle a ajouté que le pillage du pétrole et des richesses de la Syrie doivent également cesser. Madame Ershadi a conclu en soulignant que l'Iran continuera d'aider le peuple et le gouvernement syrien à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. L'Afghanistan a besoin d'un soutien urgent et soutenu de la communauté internationale pour éviter une crise humanitaire plus importante, a déclaré le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, mettant en garde contre les implications mondiales si cela devait se produire. Filippo Grandi a annoncé dans un communiqué que la communauté internationale doit donc s'engager avec l'Afghanistan et rapidement afin d'éviter une crise humanitaire beaucoup plus grave qui aura des implications non seulement régionales mais mondiales, avant même que les talibans ne prennent le pouvoir le mois dernier, a déclaré Grandi. Plus de 18 millions d'Afghans, soit environ la moitié de la population nationale, avaient déjà besoin d'une aide humanitaire. Plus de 3,5 millions d'Afghans ont déjà été déplacés dans un pays qui lutte contre la sécheresse et la pandémie de COVID-19. La pauvreté et la faim ont grimpé en flèche depuis la prise de contrôle des talibans et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré cette semaine lors d'une conférence internationale sur l'aide que les Afghans sont confrontés à peut-être leur heure la plus périlleuse. Les donateurs présents à la conférence ont promis plus de 1,1 milliard de dollars pour aider l'Afghanistan. Et enfin, les avocats de 2 des 6 détenus palestiniens qui ont été arrêtés après s'être évadés d'une prison israélienne disent que leurs clients ont été violemment battus lors de leur arrestation. l'un des détenus souffrirait d'une fracture de la mâchoire et de deux côtes cassées. L'autre a également été lâchement battu avant d'être emmené dans un poste de police voisin où il a été déshabillé et soumis à des heures d'interrogatoire. Son avocat affirme que son client a une blessure à la tête visible et a été continuellement interrogé avec en plus une privation de sommeil. Les avocats ont pu rencontrer pour la première fois les prisonniers attaqués mardi et tôt mercredi. 6 prisonniers palestiniens se sont évadés d'une prison à sécurité maximale en Israël le 6 septembre. Le président iranien Ebrahim Raïsi s'est rendu aujourd'hui au Tadjikistan, sa première visite à l'étranger depuis son entrée en fonction le mois dernier, pour assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. La visite intervient à l'initiative du Tadjikistan, président tournant de l'OCS cette année, qui a pleinement soutenu l'adhésion à part entière de la République islamique d'Iran à l'alliance politique, économique et de sécurité eurasienne qui a été fondée en 2001 par la Chine, la Russie et les républiques d'Asie centrale. Le sommet annuel de l'OCS, qui comprend 8 membres, a lieu du 16 au 17 septembre à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. L'Iran, qui a acquis le statut d'observateur au sein de l'organisation en juin 2005, attend une adhésion permanente au sommet de cette semaine, notamment avec le soutien de la Russie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré lundi que la visite au Tadjikistan du président Raïsi poursuivrait deux objectifs: la participation au sommet de l'OCS et les pourparlers entre l'Iran et le Tadjikistan. Il a ajouté que la demande de l'Iran d'adhérer à part entière à l'OCS sera examinée lors du sommet. Il y a un mois, suite à sa conversation téléphonique avec le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, le vice-amiral Ali Shamrani, a déclaré que la voie était ouverte pour cette adhésion. Heureusement, les obstacles politiques à l'adhésion de l'Iran à l'OCS ont été levés et l'adhésion de l'Iran sera bientôt finalisée, avait-il déclaré dans un communiqué. Ces dernières semaines, de nombreux pays se sont manifestés pour soutenir la candidature de l'Iran, notamment la Russie et la Chine. Bakhtiar Rakhimov, l'envoyé spécial du président russe pour les affaires de l'OCS, a déclaré lundi dernier que Moscou s'attend à ce que les membres de l'OCS décident de l'adhésion de l'Iran à l'organisation lors du prochain sommet à Douchanbé. Le président iranien Ebrahim Raïsi devait rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet. Mais les rapports indiquent maintenant que le président Poutine assistera au sommet par vidéoconférence car il a atteint la maladie COVID-19. Les deux dirigeants ont eu une conversation téléphonique mardi au cours de laquelle le président Poutine a informé son homologue iranien qu'il avait été mis en quarantaine. Le président russe a appelé à une coordination entre les deux parties pour faciliter une rencontre le plus tôt possible. Lors d'un précédent appel téléphonique, le 27 août, le président Raïssi avait remercié Moscou d'avoir lancé le processus d'adhésion de l'Iran à l'OCS et espéré que cela renforcerait les liens entre les deux alliés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue russe, Sergei Lavrov, ont également discuté de la question de l'adhésion de l'Iran à l'OCS lors d'un entretien téléphonique le mois dernier. La Chine a également appuyé l'adhésion à part entière de l'Iran à l'OCS. Le président chinois Xi Jinping, dans sa récente conversation téléphonique avec le président Ebrahim Raïssi, a affirmé que le soutien de Pékin était conforme aux intérêts à long terme de l'Organisation de coopération de Shanghai.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait aborder les récents développements relatifs à la Syrie. Et si vous avez suivi l'actualité, vous en êtes rendu compte, l'armée syrienne a remporté tout récemment une victoire significative contre les terroristes, les groupes armés dans la région de Deraa. La région de Deraa qui était un important bastion pour les terroristes, les groupes armés, est désormais sous le contrôle de l'armée syrienne. À en juger par des informations, le gouvernement syrien s'est fixé comme objectif de pacifier Idlib également, cette région ô combien importante et stratégique et d'Idlib où en fait les groupes armés et les terroristes se sont retranchés et l'armée syrienne envisage de pacifier cette région également. C'est dans ce contexte que le président syrien Bachar al-Assad a rencontré à Moscou, le président russe Vladimir Poutine. Lors de cette rencontre, Vladimir Poutine a vivement critiqué la présence des forces étrangères, très particulièrement une allusion, bien sûr, à la présence des forces américaines et des forces turques en territoire syrien. C'est de ce sujet qu'on va débattre dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Pour entamer notre émission, on va partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, Amart. C'est toujours un plaisir. Bonjour à mon collègue Maître de Velay, pour lequel c'est un plaisir aussi de le retrouver. Et bonjour à nos téléspectateurs. Vous savez que la Syrie est un dossier qui m'est cher. Et lorsque nous étions dans les années 2013-2014, où tout le monde s'était détourné de Damas, moi j'étais présent et fidèle. J'ai notamment mené la première mission avec des parlementaires de l'Union européenne en 2013 à Jamat pour discuter d'une question qui est au cœur de l'actualité française, le procès de ce qu'on appelle les djihadistes venus de l'Union européenne en Merci. Europe.
Merci beaucoup, monsieur Michel. Nous avons également, vous l'avez dit, avec nous pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, maître Arnaud Devollet, juriste français spécialiste des questions internationales. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et un grand bonjour à Luc Michel.
Maître Devollet, vous êtes à Damas. Vous avez suivi en fait ces récentes évolutions très importantes. C'était quand même de la Syrie, de cette libération de la ville de Deraa et cette prochaine destination de l'armée syrienne qui pourrait être, je viens de le dire tout à l'heure, Idlib, également cette rencontre à Moscou entre les présidents russes et de syriens respectivement, Vladimir Poutine et Bachar Assad. Comment expliquez-vous ces récents développements, maître de volée, vous qui êtes à Damas, s'il vous plaît?
Écoutez, de toute évidence, la situation qui s'est déroulée les 70 derniers jours à Deraa laisse entendre que des opérations de déstabilisation ont été préparées, téléguidées de l'étranger, visiblement, probablement dans l'optique d'essayer de faire diversion quant à la réélection assez unanime du président Assad. Une élection qui, rappelons-le, avait pour sujet de campagne un effort national pour la reconstruction au travers du travail. Et donc, dans cette optique-là, le mandat qui a commencé récemment se devait résolument d'être axé sur la reconstruction. Visiblement, cette grande victoire électorale, comment dirais-je, ce plébiscite de l'action du président Assad durant les 7 dernières années, qui sont donc les années où il préside à la libération de la majorité des territoires syriens, lui donner une dynamique certaine. Et c'est cette dynamique-là que, visiblement, des agents de l'étranger ont essayé de casser en probablement stipendiant des agents sur place à Deraa pour commencer à revenir sur les termes des accords de réconciliation qui avaient été signés en août 2018 lors de la libération de cette région. Et l'idée, c'était de toute évidence de faire durer la situation afin que, sur un plan médiatique, on ne parle que de cela. Deraa étant, rappelons-le pour le téléspectateur, un point symbolique essentiel, puisque c'est là que tout a commencé en mars 2011. Et donc, l'idée, c'était dans ce sens-là d'essayer de faire passer le message de manière subliminale que tout ce qu'on peut dire sur le fait que l'armée syrienne ait repris le contrôle et que la situation soit pacifiée n'est en fait qu'un leurre, et que beaucoup des mêmes problèmes qui pouvaient être à l'époque instrumentalisés restent entiers. Et l'idée, c'était donc, dans ce contexte-là, de faire durer. Donc, tantôt, il y avait des trêves entre l'armée syrienne et les insurgents, avec la médiation des Russes, bien sûr. Mais l'idée, c'était peut-être éventuellement de forcer l'armée syrienne à perdre son sang-froid et d'investir les lieux, qui auraient certainement été du pain béni pour les médias occidentaux, parce qu'on aurait pu, à l'époque, à ce moment-là, si je puis dire, évoquer la force brute du régime, entre guillemets, de Damas, et qui révèle, en fait, son vrai visage. Donc, cet épisode, cette séquence qui a duré tout l'été a été très, très délicate à gérer. Mais, in fine, les choses se sont arrangées, si je puis dire, résolues par le haut. Une bonne partie des insurgents ont été, si je puis dire, convaincus de prendre l'option des bus verts, de rejoindre pour certains donc la province d'Idlib que nous allons aborder, et pour d'autres de déposer les armes et de laisser rentrer l'armée syrienne dans les quartiers. Mmh.
Merci beaucoup, Luc Michel. Venez d'entendre de l'analyse de Maître de Volée. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Et on est en face d'une sinistre comédie. Qu'est-ce que c'est la Syrie? On dit que Bachar el-Assad a fait 600 000 morts. En réalité, c'est une déstabilisation politique, une révolution de couleur dans les premiers mois du printemps arabe, mais qui avait été préparée de 2003. Dès 2003, les Américains désignaient Tripoli, Damas, après Bagdad comme leurs deux cibles. Là donc, la révolution de couleur a été transformée en guerre civile. Il y a deux armées de l'OTAN complices. Les Turcs qui occupent le nord de la Syrie, et les Américains qui occupent le Nord-Est. Depuis 10 ans, ils pillent le gaz et le pétrole syrien qui est vendu avec la complicité de Daesh et de la Turquie. Et c'est une sinistre comédie parce que les Turcs sont là soi-disant pour contenir le terrorisme kurde et en réalité pour protéger les Tafkiristes à Idlib. Et les Américains sont là, eux, pour protéger les Kurdes. La Syrie, d'ailleurs, elle voit donc une double occupation qui est illégale au regard des lois internationales. Il n'y a aucun mandat des Nations Unies. L'OTAN est là illégalement. Et bien entendu, l'Iran y a répondu dans le cadre de la guerre hybride qu'elle mène contre l'OTAN, puisqu'elle a organisé des milices chiites pour combattre précisément les FDS kurdes. Il faut arrêter avec cette double occupation. Il faut libérer le territoire. Aujourd'hui, Damas contrôle 90% du territoire. Il faut achever la libération du territoire national contre la Turquie et contre les Américains et les Français. C'est à cela que les Russes contribuent. C'est à cela que l'Iran contribue. Le combat de Damas, il est légitime. C'est le combat pour la reconquête du territoire national contre une occupation étrangère.
Et Luc Michel, quelle est l'importance de la libération de Deraa?
Elle est très importante parce qu'on est avec Idlib et Deraa, on est dans les dernières grandes villes qui sont occupées par les forces d'occupation étrangères. Et les conditions dans lesquelles cette libération s'effectue, c'est-à-dire sans attaque contre les populations civiles, elles sont capitales, comme Maître Develay l'a expliqué. En fait, les Américains pensaient piéger, avec l'aide des Turcs, ils pensaient piéger Damas, et ça ne s'est pas effectué comme ça. Grâce à l'aide de Moscou et grâce à l'aide de Téhéran, c'est une véritable libération nationale. Les derniers Tafkiris sont en train de se diriger vers Idlib, et depuis Idlib, ils sont transportés actuellement en Libye. Et maintenant, bien entendu, il n'y a plus aucune alibi, parce que c'était de ça qu'il s'agissait, à la double occupation turque et américaine du territoire syrien.
Et Maître Develay, quelle est en fait l'importance de cette prochaine stratégie de l'armée syrienne, du gouvernement syrien qui se précise, c'est-à-dire la nécessité de pacifier Idlib désormais?
Écoutez, vous l'avez dit, Luc Michel aussi l'a souligné, in fine, lorsque l'on lit le transcript de ce qui a pu se dire à Moscou, c'est visiblement un accord, si je puis dire, entre les deux dirigeants quant au fait qu'on ne peut pas parler de reconstruction en tant que telle tant que la province d'Idlib n'aura pas été nettoyée de ses éléments. Il y va du narratif qui doit être imposé maintenant, celui de reconstruire le pays. Et dans ce contexte-là, on peut effectivement penser que la prochaine priorité de l'armée arabe syrienne et de ses alliés sera de nettoyer la poche de sa purulence. C'est indispensable.
Et pour en fait libérer Idlib, il y a ceux parmi des analystes qui disent que voilà, la Syrie, l'armée syrienne, est confrontée à un obstacle qui vient de la Turquie et du président Erdogan. Est-ce de votre avis également?
Écoutez, moi je pense que ce qu'on a appelé les accords d'Astana et de Sotchi ont été une erreur. Ils ont simplement permis le maintien d'une poche, comme le dit Maître Develay, purulente au sein de la Syrie. Ils ont permis d'utiliser comme force proxy les Tafkiris que nous appelons les djihadistes du Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire d'Al-Qaïda en Syrie. Ils ont aidé à les maintenir en vie en Syrie et ils ont aidé à les déployer actuellement en Libye. C'est ça, c'est une grande erreur. Il faut rappeler également, c'est que les Américains veulent empêcher la reconstruction de la Syrie par la guerre économique, ce qu'on a appelé la loi César, qui vise à empêcher la reconstruction de la Syrie, mais qui vise également à pénaliser l'économie libanaise. La crise qui existe actuellement au Liban, elle est en grande partie due à cette loi César. Donc il faut mettre un terme à tout cela, d'autant plus qu'il faut savoir que la politique turque elle ne se limite pas d'ailleurs à frapper la Syrie et à frapper la Libye. Actuellement, les Turcs sont en train de se déployer au Mali, où ils visent à empêcher l'action militaire qui est en train de commencer de la Russie au Mali. Les colonels de Bamako, en acceptant l'arrivée des Turcs au Mali, ils ont fait une erreur géopolitique fondamentale. Il faut arrêter avec cette action maligne et machiavélique des Turcs en Syrie, en Libye et au Mali.
Et Maître de Volley, quel message, d'après vous, je viens de faire allusion à cette rencontre à Damas entre le président syrien Bachar al-Assad et son homologue russe Vladimir Poutine, qui a en fait mis en cause la présence de forces étrangères, une allusion directe, sans aucun doute, aux militaires américains, aux militaires turcs en territoire syrien. Quel message? On connaît très bien, en fait, la divergence qui existe entre Moscou et Washington au sujet de la Syrie. Mais quel message, d'après vous, voulait transmettre le président Poutine aux autorités d'Ankara, de par, si vous voulez, cette déclaration?
Je pense que le président Poutine est assez subtil pour envoyer un message sans forcément que son récipiendaire se sente visé. Mais les Turcs ne pouvaient pas, en l'état, ignorer que les recommandations du président russe étaient visiblement les concernaient eux aussi. Il faut garder à l'esprit que le président Poutine a été en fait assez clair. Il établit le fait qu'aucune occupation n'est viable sur le long terme, que les résolutions adoptées par l'ONU, principalement la résolution 2254, parmi ces préconditions, appelle au départ des forces étrangères. Dans ce contexte-là, nous avons, comme Luc Michel l'a souligné, des alliés de Damas qui ont été invités par le gouvernement syrien de manière complètement légitime. Et de l'autre, nous avons l'OTAN qui prétend, sous l'égide d'une coalition globale contre le terrorisme, mais sans que cette appellation soit sanctionnée par aucune résolution, quelle qu'elle soit, d'avoir pour but et prérogative de s'installer en Syrie sans avoir consulté avec le gouvernement syrien. Donc c'est un jeu de dupes. Comment pouvez-vous prétendre combattre le terrorisme en Syrie sans avoir consulté ou sans coordonner votre action avec le gouvernement syrien? Personne n'est dupe. L'opinion publique elle-même a bien compris ce qui se passe. Politiquement, c'est quelque chose qui n'est plus viable, qui coûte énormément d'argent, et qui finira, si les Américains ne se montrent pas raisonnables quant à la possibilité de quitter la région la tête haute, par se retourner contre eux. Donc le président Poutine est patient. Il sait très bien que les éléments sur la table concernant les arguments mis en avant par les Américains et leurs alliés, Luc Michel l'a souligné aussi, les Français sont là-bas, ainsi que les Allemands, les Anglais aussi, et les Saoudiens. Tout ça n'a aucun sens, et à partir du moment où l'administration Biden, on peut penser que ce sera le cas sous cette administration, commencera à réaliser que les ressources américaines sont peut-être mieux utilisées ailleurs, entre guillemets, tout se passera très très vite, j'en suis convaincu.
Et Luc Michel, vous l'avez dit, ça fait en fait plusieurs années que vous suivez les évolutions relatives à la Syrie, et vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, vous avez effectué également avec des parlementaires belges une visite à Damas en Syrie. Et cette libération, puisque vous êtes un bon connaisseur de la Syrie, je vous pose cette question, cette libération de Deraa est-elle une défaite pour Israël aussi? Luc Michel, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends maintenant, Ahmad. Moi, je pense qu'il s'agit d'un message très clair de Poutine aux Turcs. Les Turcs, rappelons-le, c'est la deuxième armée de l'OTAN et c'est la principale associée des États-Unis dans ce qu'on a appelé la seconde phase du printemps. Ils sont présents en Syrie, ils sont présents en Libye, ils sont présents au Sahel pour appuyer l'action américaine. Je pense qu'il y a un message très clair de Poutine en ce qui concerne la Syrie. Vous savez, j'ai suivi de très près le début du printemps arabe en Syrie. J'étais en 2014 avec une mission de monitoring lorsque Bachar el-Assad a été réélu pour la première fois. Et aujourd'hui, bien entendu, les Turcs, ils ont repris le contrôle de la Libye pour le compte des Américains. Et ils sont en train d'appuyer actuellement le déploiement des Américains au Sahel. Tous les dossiers sont liés. Les Turcs essayent d'entraver l'arrivée de la Russie qui se fait ces jours-ci au Mali. Et il est bien certain que Poutine est en train d'avertir les Turcs qui ne laissera pas l'action des Turcs au Mali se déployer comme elle s'est déployée en Syrie ou en Libye. C'est cela le message qui est envoyé actuellement.
Et Luc Michel,
c'est un message très clair à Ankara. L'action maligne de la Turquie, elle ne pourra pas se faire.
Luc Michel, c'est une défaite également d'Afrebout pour Israël, la libération de Deraa.
Bien entendu, depuis le début, les Israéliens, ils appuient les tafkiristes, notamment sur la frontière avec le Golan occupé. Et cette fois-ci, comme on dit en français, c'est fini de rire pour tous ces gens. La Russie n'a plus de patience. La Russie n'est plus décidée à l'indulgence et à la tolérance parce que les conditions stratégiques ont changé en Syrie elle-même. En Syrie, Bachar el-Assad contrôle 90% du territoire syrien. Et en Libye aujourd'hui, la Russie n'est plus décidée à laisser l'Amérique mener ses plans. C'est cela qu'il faut constater. Ni les Turcs ni les Israéliens n'auront de tolérance vis-à-vis de Moscou.
Et Arnaud de Volet, un mot sur ce dernier point.
Oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Luc Michel. La libération de Tara et la façon dont la Damas et ses alliés ont géré cette ultime tentative de déstabilisation de cette région met un point final aux attentes israéliennes qui visent à sanctuariser le territoire occupé du Golan, vous l'avez dit. Maintenant, la résistance se trouve directement aux portes du Golan. Il était prévu qu'il y ait une zone tampon. L'Israélien avait essayé de convaincre les Russes d'environ 80 km entre les forces de la résistance et le plateau occupé. Apparemment, ce n'est pas le cas. La résistance est là et bien là. Et c'est cela surtout dont l'État sioniste s'inquiète. C'est que plus que jamais, la donne stratégique par rapport à la libération du plateau du Golan est très bien engagée pour la résistance et va être très difficile à défendre pour Tel Aviv.
Merci beaucoup.
C'est ça, voilà.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Volet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission en ligne et depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. Le bilan officiel est de 2977 morts et 6291 blessés. Les attentats du 11 septembre sont quatre attentats suicides perpétrés le même jour aux États-Unis, dans le centre de Manhattan à New York, à Arlington et à Shanksville en Pennsylvanie en moins de 2 heures. Ils sont réalisés par des membres du réseau Al-Qaïda 2 jours après l'attentat suicide de l'organisation, tuant le commandant anti-taliban et ancien ministre de la Défense, Ahmad Shah Massoud, en Afghanistan.
Il vise des bâtiments symboliques du nord-est du pays, dont le World Trade Center, déjà attaqué en 1993. Au matin du mardi 11 septembre 2001, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, à New York, et un troisième sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, D.C., tuant toutes les personnes à bord et de nombreuses autres travaillant dans ces immeubles. Le quatrième avion, qui vole en direction de la capitale fédérale, sans que l'on sache quel bâtiment gouvernemental il visait, s'écrase en rase campagne en Pennsylvanie. Un rapport officiel publié fin juillet 2004 établit la responsabilité du réseau Al-Qaïda en affirmant que les 19 terroristes auteurs de ces attentats suicides, dont 15 de nationalité saoudienne, en sont membres et que le commanditaire en est Oussama Ben Laden, qui les revendique à plusieurs reprises. Suite à ces attentats, le président américain George W. Bush a lancé la guerre contre le gouvernement des talibans en Afghanistan, allié d'Oussama Ben Laden. Ceux qui ne retiennent pas les leçons du passé sont condamnés à répéter les mêmes erreurs, dit le proverbe. Nous en avons une preuve supplémentaire avec l'intervention américaine et des alliés de l'OTAN en Afghanistan, qui se termine au moment où l'on souligne le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Cela coïncide aussi avec la publication cette semaine du livre des Afghanistan Papers par le journaliste Greg Whitlock du Washington Post. Il est clair qu'on veut rappeler les Pentagon Papers, cette histoire secrète de la guerre du Vietnam. On y trouve les mêmes mensonges de la part des autorités, la même méconnaissance du terrain et de l'ennemi, et une conclusion similaire, une défaite dans le déshonneur. Des Afghanistan Papers reprennent une série d'entrevues réalisées par le gouvernement américain dans le cadre d'une histoire orale du conflit en Afghanistan et regroupées sous le titre de leçons que nous avons tirées. Ce qui rend les témoignages intéressants, c'est qu'ils ne devaient jamais être publiés, pour s'assurer que les personnes interrogées disent vraiment le fond de leurs pensées. Officiers de l'armée et diplomates de haut rang ont ainsi raconté leur histoire. Il aura fallu plus de 2 ans de bataille juridique avec l'administration américaine en vertu de la loi sur l'accès à l'information pour que le Washington Post obtienne finalement les documents. Les choses qu'on y apprend, c'est que justement, les Américains n'avaient rien appris des erreurs précédentes au Vietnam ou dans des conflits dans lesquels les États-Unis s'était impliqué. On y découvre que les Américains n'avaient pas d'objectif précis, ou plutôt qu'ils en changeaient constamment. Au début, c'était de combattre Al-Qaïda et d'empêcher le groupe de perpétrer d'autres attentats terroristes, avec l'objectif de neutraliser Oussama Ben Laden, le cerveau des attentats du 11 septembre, ce qui n'arrivera que 10 ans plus tard. Puis l'objectif fut de chasser les talibans au pouvoir en Afghanistan. ensuite d'assurer une certaine stabilité au pays, et enfin d'instaurer un gouvernement à l'américaine avec président désigné, parlement élu, cour suprême, ministère, etc. Et le tout dans un pays où le pouvoir n'avait jamais été exercé de cette manière. Nous n'avons jamais compris fondamentalement ce qu'était l'Afghanistan. Nous n'avions aucune idée de ce que nous allions faire dans ce pays, dira le général Douglas Lutt, conseiller à la sécurité nationale des présidents Bush et Obama pour l'Afghanistan. Pendant tout ce temps, nous apprennent les Afghanistan Papers, toute une machine de mensonges se mettait en place. Le public n'entendait parler que des bonnes nouvelles, sans savoir ce qui venait du terrain et qui indiquait que cette guerre était devenue impossible à gagner. De même, malgré les sommes colossales qui y ont été engagées, l'entraînement des soldats de l'armée afghane n'a jamais donné les résultats escomptés, alors que les autorités américaines ont toujours affirmé voir de grands progrès. La même chose est vraie pour le développement d'une véritable société civile, dans lequel les États-Unis ont investi des sommes considérables. L'un de nos buts était de développer une économie de marché prospère. Nous avons surtout développé le trafic de la drogue. C'est le seul marché qui a bien fonctionné, disait encore le général Lutt. Puis, 2 ans après le début du conflit, l'administration de George W. Bush commence à se désintéresser de l'Afghanistan pour porter son regard vers l'Irak de Saddam Hussein. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, se rend même à Kaboul pour expliquer que les combats ont pratiquement cessé en Afghanistan et que la plus grande partie du pays est sécuritaire. Les troupes sur le terrain savent très bien que cela est totalement faux, mais c'est le discours officiel de l'administration. On sait maintenant aussi que la guerre en Irak a été déclenchée sous des motifs fallacieux et que les armes de destruction massive que devait posséder le régime de Saddam Hussein n'ont jamais existé. Pendant ce temps, la guerre en Afghanistan continuera dans l'oubli en attendant de trouver un scénario pour la fin des opérations. Actuellement, à Washington, on assiste à un débat partisan pour essayer de déterminer qui est responsable du fiasco et du chaos que l'on vient de voir à Kaboul. Mais la politique américaine est beaucoup trop clivée pour prendre le temps de regarder le tableau complet avant de tenter de désigner des coupables. Ainsi, les Américains oublient beaucoup trop facilement que les décisions prises par l'administration de George W. Bush au début de la guerre, tant en Afghanistan qu'en Irak, sont en grande partie responsables des difficultés rencontrées par la suite. Les administrations qui ont suivi ont également leur part de responsabilité. On oublie aussi que les Américains n'ont jamais pris le temps de connaître la société afghane ou de s'assurer que les sommes considérables dépensées par les Américains n'allaient pas augmenter la corruption au lieu de la réfréner. Ce ne fut pas une guerre de 20 ans, ce fut une guerre d'une année répétée 20 fois, a déclaré à l'agence Reuters, un officier supérieur américain en dénonçant les décisions à court vue et le manque de continuité des opérations. Il aurait pu ajouter que les Américains n'avaient rien appris depuis la guerre du Vietnam.
Thank you.